aller chez eux. Ne m'aurait-il pas répondu « c'est ce que nous avons fait », mais aucun d'eux n'a voulu aller frapper à la porte de l'ami pour lui demander ce qu'il nous fallait. Vous, de grâce, faites-le, car nous sommes dans la détresse. Ils étaient en effet dans la détresse, qu'avais-je à faire? Bien que fatigué, harcelé par eux, je ne me lassais pas d'aller encore et encore chercher les trois pains, et souvent il m'est arrivé de les obtenir beaucoup plus vite qu'au commencement, et plus gros aussi. Cependant tous ne pouvaient pas manger de ce pain-là, ce qui fait que plus d'un s'en est retourné ayant encore faim en me quittant. Note. Le pasteur Blumhardt ne comprenait pas que la prière de la foi, qui demande la guérison des malades, put paraître en désaccord avec le devoir de soumission et de patience. Cette objection qu'on a souvent faite vient de deux erreurs. D'abord, on se figure qu'en usant de la prière de la foi, on impose à Dieu sa propre volonté. Mais n'est-ce pas le faire bien plus encore quand on ne prie pas? Dieu n'est-il pas disposé à nous secourir, n'attendant pour le faire que de nous voir venir à lui avec foi, et si nous ne recourons pas à lui, ne l'empêchons-nous pas ainsi de venir à notre aide? Loin d'exercer aucune contrainte, la prière de la foi ne nous est-elle pas recommandée? Par ces mots, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. La foi attend tout de Dieu, tandis que la patience n'attend rien. Voici l'autre erreur. Il y a une certaine patience pieuse, qu'on cite souvent en exemple dans le monde, c'est celle qui subit la maladie, sans chercher à en être délivrée. Blumhardt ne s'y fiait pas, ne la trouvant pas de bonne aloi. Il est plus aisé, disait-il, de se résigner à être malade, que d'user de la prière de la foi, et de chercher à enlever les obstacles qui s'opposent à ce que Dieu vienne nous secourir. On fait de nécessité vertu, et chaque fois que la maladie paraît incurable, on déclare que c'est là la volonté de Dieu. On va même jusqu'à dire que la maladie est le plus grand bonheur possible, la meilleure bénédiction à recevoir. Néanmoins, tout en parlant ainsi, on accueille de toutes parts les remèdes qu'on suppose devoir y mettre fin. Cette pieuse patience qui n'ose demander à Dieu la guérison de peur de lui déplaire, ne se fait aucun scrupule de recourir à tous les moyens terrestres possibles pour se délivrer de la maladie. Il vaudrait mieux se dire « Dieu, ne m'appelle-t-il pas par cette maladie à user de foi ? Si je ne le fais pas, c'est un péché. La foi est un devoir, donc manquer de foi c'est péché, et voici pourquoi l'Évangile est une puissance de Dieu. » Romains 1, 16. Quand il réveille la conscience et qu'il pousse une âme à avoir foi aux promesses de Dieu, il n'y a là rien d'humain. Mais si celui qui est, ainsi appelé à user de foi, néglige de le faire et par paresse spirituelle, préfère recourir à tout autre moyen, plutôt que de tomber à genoux et de s'adresser à Dieu, il y a là un manque de foi volontaire qui est un péché. Lorsque Blumhardt reproche aux croyants leur paresse et leur négligence à fléchir les genoux devant leur Dieu, il donne là le résultat de sa propre expérience. Ce n'est qu'après avoir triomphé de toute paresse et négligence, ce n'est qu'après avoir persévéré dans le jeûne et la prière qu'il a remporté ses éclatantes victoires. Notre Dieu est le Dieu vivant, celui qui est en communion avec Dieu doit être résolu à être vivant aussi, c'est-à-dire à rester ferme dans la foi, à aller de l'avant et à vouloir la victoire. Romains 6, 13. Note. De la volonté de Dieu tirée de la maladie et l'Évangile, par Otto Stockmayer. Dieu le Père ne se donne pas de repos, qu'il n'a mis toute chose sous les pieds de son Fils, et s'il tolère encore des ennemis de Christ dans l'économie actuelle, il attend de s'y racheter, les prémices de son Église, qu'ils honorent son Fils en reconnaissant sa souveraineté, et se donnant entièrement à lui, cœur, volonté et intelligence. C'est pour les amener à cette entière consécration qu'il recourt parfois à la discipline de la maladie. Jaloux de la gloire de son Fils, il veut que Jésus remporte une victoire complète sur ses rachetés et en eux, qu'il les voit tous, et surtout ceux qui le suivent de plus près, recueillir tout ce que sa mort leur a acquis. Si donc Satan ose attaquer ceux des serviteurs de Dieu, qui sont les plus fidèles, c'est non seulement avec la permission de Dieu qu'il le fait, mais parce que Dieu lui-même l'a jugé bon, et par ce qu'il veut dompter en eux toute vie propre, pour les amener à vivre de la vie de Christ. Dieu poursuit donc en eux son œuvre de discipline, jusqu'à ce que les voyant humiliés et sanctifiés, il puisse les employer librement à son service. Pour pouvoir jouir de l'œuvre de Christ, pour être guéri ou préservé de la maladie, il faut mourir à soi-même, écouter la voix de Dieu et lui obéir. C'est par là que Dieu nous prépare à devenir ouvriers avec lui. C'est notre entier abandon à sa volonté qui permet au Saint-Esprit de stimuler tout notre être à porter des fruits. Le Saint-Esprit nous place dans notre véritable position à l'égard de la parole de Dieu, nous faisant passer de l'attente passive à la foi vivante. Pour le malade, il ne s'agit donc pas seulement de savoir s'il lui plaît ou non d'être guéri, mais de savoir ce qu'en dit la Bible et ce qui sera le plus à la gloire de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui doit devenir ici notre volonté. Nous devons donc vouloir que la rédemption manifeste son efficace dans notre corps, vouloir que notre corps tout entier soit consacré à Christ, qu'il soit sanctifié par lui et affranchi des liens de la maladie, et si nous le voulons, c'est parce que Dieu le veut et pour que sa volonté s'accomplisse dans notre corps, aussi bien que dans notre âme. C'est ainsi en nous appuyant sur la parole de Dieu que nous devons demander avec assurance la guérison, quels que puissent être les obstacles et quelque prolongée que soit l'épreuve de notre foi par le retard de la réponse de Dieu. Dans l'épître de Jacques, la promesse de Dieu est si positive et soit Osaïe, soit Matthieu ont si clairement parlé de l'œuvre de Christ qu'il est impossible de douter de la volonté de Dieu quant à la guérison de ses enfants malades. Jacques 5, 14, Isaïe 53, 4, Matthieu 8, 16,17. Cependant, cette volonté de Dieu ne s'accomplira en nous que si, comme Élie sur le Carmel, nous nous attachons, avec persévérance et foi, à la recevoir. Quant à dire « il en sera ce que Dieu voudra », c'est parler comme si Dieu ne nous avait pas fait connaître sa volonté. Souvenons-nous que lorsqu'il nous l'a fait connaître, nous en sommes responsables tout autant que lui-même. Sachons aussi que notre incrédulité peut en entraver l'exécution. Voyez ce que disent là-dessus. Matthieu 13, 58, Marc 6, 5 et 1, Jean 5, 10. Note. Dorothée Trudel. C'est par des faits plutôt que par des exposés de doctrine que le Nouveau Testament nous fait connaître la guérison divine. Le récit qu'il nous donne de tous les malades guéris par Jésus proclame hautement son amour et sa divine puissance. De nos jours encore, rien ne fortifie mieux la foi que les réponses merveilleuses du Seigneur à ceux qui se confient en lui. Dorothée Trudel nous montre ce que peut obtenir la simplicité de la foi et la persévérance dans la prière. Que de fois, elle aussi, a entendu cette réponse du Seigneur « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu désires. » Matthieu 15, 28. Fille d'une mère pauvre et pieuse, Dorothée avait appris d'elle que Dieu répond aux prières, même lorsqu'il s'agit de choses terrestres. Pieuse elle-même dès son enfance, elle ne se sentit réellement convertie qu'à l'âge de 22 ans, elle fut amenée alors à se donner à Dieu, par la mort d'une amie qui, comme elle, aimait beaucoup la danse. Depuis ce moment, elle devint une chrétienne sérieuse et chercha à marcher dans la voie de l'obéissance et de la foi. Ce ne fut que dans sa 37e année que s'ouvrit devant elle la carrière nouvelle à laquelle Dieu l'appelait. Pour gagner sa vie, elle faisait des fleurs artificielles, occupant à ce travail plusieurs ouvrières. Quatre d'entre elles tombèrent malades en même temps. Ni médecin, ni remède ne purent les guérir, et il ne restait plus guère d'espoir de les sauver, lorsque Dorothée, qui les entourait de prières et de lectures de la Bible, fut frappée des paroles, bien connues de l'épître de Saint Jacques. Elles lui apparurent alors sous un jour tout nouveau. « Si les médecins sont à bout de ressources, se dit-elle, n'avons-nous pas la prière ? Le Seigneur n'a-t-il pas la puissance de guérir sans remède ? Il fut un temps où il n'avait nul besoin de remède, où il agissait tout directement. Pourquoi n'en serait-il pas de même aujourd'hui ? Ne serait-ce pas le manque de foi qui nous en priverait ? Elle se mit donc à prier, et les malades furent guéris. L'expérience qu'elle avait faite là lui ouvrit une vie nouvelle. Voici ce qu'elle en dit, et le même Dieu m'avait rempli d'amour pour mon prochain, et c'était avec joie que je parlais à mes ouvrières du bonheur d'être affranchies par le Seigneur du joug du monde. Bientôt quatre d'entre elles tombèrent malades, on appela le médecin, néanmoins le mal s'aggrava, enfin le danger devint tel que je dus crier au Seigneur. Me sentant aussi incapable qu'un ver de terre, je lui dis que je voudrais recourir aux anciens de l'Église, selon l'ordre donné par Saint Jacques, Jacques 5, 14, mais que je ne savais où trouver des anciens, que par conséquent j'allais me rendre chez ces malades, avec la foi de la Cananéenne, et que je leur imposerais les mains, sans toutefois me figurer qu'il y eut aucune vertu dans ma main. C'est ce que je fis, et par la grâce de Dieu, toutes quatre furent guéries. Je fus très frappé alors du péché, qu'il y a à ne pas obéir à la parole de Dieu, et le vis clairement ce que doit être la vie de la foi, qu'elle se résume à obéir pratiquement à tout ce que Dieu commande. Bientôt vinrent chez elle d'autres malades, qu'elle reçut et soigna avec amour, et il se fit là des prodiges par le nom de Jésus. Acte 4, 30 pour loger le nombre croissant des malades, il fallut acheter une seconde maison, puis une troisième. Son but était avant tout d'amener les malades à comprendre leur état de péché et à aller au Seigneur. Une bénédiction remarquable reposa sur ce travail spirituel. L'esprit de prière remplissait la maison et c'était la parole de Dieu reçue dans le cœur de chacun qui était là le souverain médecin. Un jour qu'on lui demandait d'où venaient tous ces prodiges, elle répondit : « Ce n'est pas que nous puissions rien faire par nous-mêmes. Tous ces miracles, soit dans l'âme, soit dans le corps, résultent de la vertu du sang de Christ. Mais pour cela il ne suffit pas de dire « je crois au sang de Christ », il faut encore vivre de la vie que Christ nous a acquise par son sang, c'est là uniquement ce qui me permet de faire ces miracles. » Après avoir travaillé de la sorte pendant 10 ans et avoir été une source de bénédiction pour des milliers d'âmes, elle mourut, laissant pour lui succéder Samuel Zeller, qui continue à l'œuvre avec la même bénédiction. Soit lui, soit les personnes qui l'aident répondent toujours aux questions qu'on leur adresse en disant qu'ils ne possèdent personnellement aucun don de guérison. C'est la foi, disent-ils, c'est la confiance en la puissance de Dieu qui agisse ici. C'est lui qui opère les guérisons, selon son bon plaisir. Pour nous, nous ne sommes autre chose que des pécheurs rachetés par Christ, cherchant à obéir à cet ordre « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n'est pas nécessaire de venir à Mandorf pour recevoir la guérison et de l'âme et du corps. Il suffit de croire sans réserve aux promesses de Dieu, et dans toutes les parties du monde se verront des œuvres pareilles. Ce qui caractérise l'œuvre de Dorothée Trudel et celle de Samuel Zeller, c'est que leur travail ne repose pas seulement sur la foi qui prie, mais aussi sur l'amour, qui cherche à servir Dieu et le prochain. Que tous ceux qui veulent prier avec efficace pour les autres apportent à ceux-ci une grande attention. Lorsque Jésus guérissait les malades, c'était de sa part un acte de bonté et de tendre compassion tout autant que de puissance divine. Nous aussi, cherchons non seulement à user de foi et à témoigner de sa puissance, mais encore à secourir nos semblables, à les aimer avec la charité qui se dévoue pour le prochain, et Jésus nous emploie à continuer ici-bas son œuvre d'amour. Prions le Seigneur de nous envoyer, avec l'esprit de foi, l'esprit d'amour toujours prêt à servir les autres avec humilité.